Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous vous proposons un bilan de l'année 2019, ou tout du moins la suite du bilan que nous avons d'ores et déjà réalisé lors de la dernière émission en janvier dernier. Trois invités, Bernard Dekens, le président de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse. Bonjour monsieur Dekens.
Bonjour Bruno, bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Fuji.
Eric, décidément, chaque émission vous m'appelez Bruno.
Ah oui, c'est Eric. Ouais, c'est une constante.
Claude Wallendorf.
Je t'ai dit bonjour Bruno en arrivant.
J'ai pas fait attention. Si. Claude Wallendorf, vice-président à la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse et maire de Givet. Bonjour.
Bonjour Odile. Bonjour. À...
L'émission commence bien.
Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Fuji.
Monsieur Gillot, vice-président à la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse, mais aussi maire de Fromelennes. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Rachid.
Je l'attendais celle-là.
Bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Fuji FM. Effectivement, nous allons parler de l'année 2019 dans différents domaines, des domaines que nous n'avons pas pu aborder la semaine dernière pour faute de temps. On va parler du tourisme dans son ensemble, on va parler de quelques travaux également et puis on parlera de l'arrivée de la fibre optique prochainement, ou en tout cas le début des travaux qui ont peut-être d'ores et déjà commencé ou qui vont commencer prochainement.
Il y a un repérage qui est en cours actuellement par les services qui ont en charge des travaux, repérage pour passer la fibre. Ils sont en train de repérer tous les réseaux.
Oui, tout à fait. Donc les premières communes qui doivent être fibrées normalement sont Montigny, Fépin et Hierges. Les études apparemment sont terminées. Les travaux devraient démarrer incessamment. Mais on a toutes les raisons de penser qu'en fait, il n'y aura pas que ces trois communes-là qui seront fibrées, parce qu'à partir du moment où l'artère principale passe dans le coin, forcément, tout ce qui est autour le sera. On manque encore un petit peu de précision aujourd'hui, on doit en avoir très prochainement. Mais en tout cas, ces trois communes-là devraient être fibrées avant l'été. Givet, Ans et tout l'extrême point devrait être fibré avant la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine. Voilà, sachant qu'une fois que les travaux sont terminés, il faudra encore attendre un petit peu parce qu'il y a un délai de 4 mois entre la fin des travaux et la mise en commercialisation des réseaux qui sont nécessaires en fait aux opérateurs pour pouvoir candidater et à l'exploitation du moins de ces réseaux-là.
Alors, dans la dernière conversation téléphonique que j'ai eue avec l'opérateur qui travaille pour le compte de Losange, le développeur de la fibre, il m'avait assuré que les travaux à Givet seraient terminés en 2020. J'ai demandé des précisions, mais ils n'ont pas voulu me donner de précisions supplémentaires.
Voilà, alors, concrètement, comment ça va se traduire pour les habitants? Donc, il n'y aura pas une prise installée dans toutes les maisons. En fait, les prises seront installées au fur et à mesure des demandes d'abonnement. Mm-hmm. Hein, aujourd'hui, ce que fait l'entreprise Losange, donc, qui est chargée du déploiement de la fibre optique par la région Grand Est, c'est de tirer donc, toute la fibre optique partout. Mais les prises n'arriveront qu'au fur et à mesure que les abonnés demanderont un abonnement à la fibre optique.
Qu'on ne réalise pas les travaux pour que chaque habitation ait sa prise d'accès.
Voilà, il faut qu'il y ait une demande de l'habitant, bien sûr.
Pour les plus anciens, c'est exactement comme le déploiement du téléphone dans les années 70-80. C'était comme ça, hein, les câbles passaient, mais en fait, on installait les prises de téléphone dans les maisons qu'à partir du moment où il y avait une demande d'abonnement. Voilà, sachant que, bon, par contre, l'installation de cette prise sera gratuite. Mm-hmm. Ça, c'est quand même une excellente chose. Donc, il ne restera qu'à la charge de l'abonné, le coût de l'abonnement, tout simplement.
Et les personnes qui, à la rigueur, n'ont pas réservé leur prise au moment dit, est-ce que par la suite, effectivement, je suppose qu'ils pourront installer une prise chez eux, mais là on est bien d'accord, ce sera à la charge du client qui décide de mettre la fibre.
Il y a un délai qui est prévu par la suite. Donc, je veux dire, quelqu'un qui souhaiterait s'abonner à la fibre 2 ans ou 3 ans après l'entrée en service du réseau, je crois que c'est 2 ans aussi.
Ça doit être 2 ans le délai.
Le raccordement de la prise restera gratuit. Après, évidemment, au-delà de là, il y aura un coût d'installation.
Puisqu'on est dans les nouvelles technologies, les technologies de communication, est-ce qu'on en sait plus sur la 5G ?
Alors la 5G, on n'en sait pas beaucoup plus, elle est en cours de test hein, actuellement. Il y a déjà des émetteurs qui démarrent ça et là, ce qui n'est pas d'ailleurs sans causer quelques conséquences un petit peu désagréables, notamment sur la télévision.
Avec la télévision.
Tiens, on le sait, c'est courant, c'est fréquent, lors de l'ouverture à la 4G, ça a déjà été le cas. Alors aujourd'hui, donc, la 5G n'est pas exploitable en tant que telle. En fait, les émetteurs sont mis en service, mais il n'y a pas de signal qui passe dedans. C'est uniquement pour faire des mesures de fréquence, essayer de faire des mesures de perturbation et voir un petit peu si tout fonctionne bien. Mais on ne peut pas encore capter la 5G sur son téléphone.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, on n'a pas encore de date précise de mise en service de la 5G, mais c'est relativement imminent en tout cas.
Et là, chaque opérateur engage ses propres travaux, puisqu'on a appris vendredi dernier que la société Orange avait choisi Ericsson et Nokia, notamment pour l'installation du matériel d'émission de 5G. Bien. Pour la région Grand Est, je ne sais plus lequel c'est sur les deux, je ne sais plus si c'est Nokia ou Ericsson qui va s'occuper de la région Grand Est.
Oui, alors, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, parce que ce n'est pas une compétence de la communauté, très clairement,
oui, bien
la
sûr.
Téléphonie,
bien
la communauté sûr. Ne s'en mmh. occupe absolument pas. On a quelques informations par des biais détournés, bien évidemment, notamment par la compétence émetteur de télévision, puisqu'il y a malheureusement des conséquences néfastes. Mais, Sony et Ericsson ne sont que des fabricants de matériel, donc après, des sociétés comme Orange, SFR ou Bouygues, ce sont des grosses sociétés qui travaillent par marché, et à mon avis, il y aura, tous les opérateurs auront chacun leur marché pour installer leur matériel, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs pour la 4G ou la 3G.
Je pense qu'on pourrait peut-être revenir, parce qu'on n'en a pas assez parlé, sur le coût de l'arrivée de la fibre en région Grand Est et expliquer comment tout ça est financé grâce à l'intervention de la région Grand Est. Pascal, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur le coût et l'intervention de la communauté de communes, tout ça est intéressant.
Oui, tout à fait. Donc, en 2014, la compétence du déploiement de la fibre optique était une compétence départementale. Et puis, il y a eu la fusion des régions, et dans la région Grand Est, il y a l'Alsace, où le déploiement de la fibre optique avait déjà été réalisé, visiblement de manière très efficace, ce qui a donné l'idée à la région, en fait, de regrouper tous les schémas départementaux de la région pour mettre en place un énorme appel à concurrence pour déployer la fibre optique sur l'ensemble de la région Grand Est. Ça a eu pour avantage de faire baisser énormément les coûts des travaux. Et pour donner une image, à l'époque où le département était porteur du projet, le coût de la prise était estimé à 250 euros. 250 euros. Aujourd'hui, avec la réunion de tous les appels d'offres, de tous les chantiers départementaux, portés donc par la région Grand Est, on en est à un coût de 100 euros la prise. Oui. On a quand même diminué par 2,5 le coût de la prise, c'est quand même colossal. Et c'est ce que finalement les abonnés et le contribuable payeront en moins, parce que pour pouvoir permettre ça, en fait, il y a un cofinancement qui a été élaboré, un plan financier qui a été élaboré avec la région donc, qui en prend la majeure partie, le département qui met la part qu'il avait prévu de mettre à l'époque où il portait le projet, et puis le reste, ce sont les intercommunalités qui le mettent.
Okay.
Voilà. Et sur l'ensemble de la communauté de communes Ardennes-Rives de Meuse, les relevés qui ont été faits font état de 13 599 foyers à équiper, donc multiplié par 100 euros, ça veut dire que la communauté devra payer un petit peu moins de 1 400 000 euros à Losange pour contribuer du moins à ces financements-là. En fait, il y a un peu plus de foyers que ça. Hein. C'est une évaluation qui avait été faite à l'époque.
Il y en aura plus.
Mais il y en a un peu plus. Mais en tout cas, c'est le montant qui a été retenu de financement pour la communauté de communes.
Et c'est quand même un bon geste de la communauté de communes vis-à-vis de ses citoyens.
C'est une mutualisation au niveau du Grand Est qui a permis de faire baisser le prix de la prise. Et bon, je pense que nous, de notre côté, on ne pouvait pas rester insensible à ce type d'infrastructure sur notre territoire. Effectivement, c'est quand même un... c'est un progrès énorme qu'on puisse avoir cette fibre tout de suite à disposition.
Mais c'est très attendu par toutes les entreprises du territoire. Hein. Très clairement, aujourd'hui, ça devient même une priorité, je vais dire, pour les nouvelles entreprises qui viennent s'installer, mais aussi une priorité pour les entreprises qui sont déjà là, qui ont grand besoin de ce genre de choses. Et puis, c'est aussi une priorité, évidemment, pour tous les habitants qui ont envie de voir évoluer, évidemment, leur réseau Internet.
Oui, et il faut dire quand même, de temps en temps, que lorsque le dossier a été porté par le département des Ardennes, l'ancienne région Champagne-Ardennes se fichait de ce dossier comme de sa première chemise.
Oui, complètement.
C'est l'un des avantages positifs de notre intégration à la région Grand Est, hein, qui permet donc à nos citoyens d'avoir la fibre gratuitement. Avec la région Champagne-Ardennes, ça n'aurait pas été gratuit. Non, non. Et cet avantage est à noter au même titre que le rôle important que joue la région Grand Est dans la rénovation de la ligne de chemin de fer Charleville-Givet, dans l'éventuelle réouverture de la ligne de chemin de fer Namur-Reims via Dinan et Givet, et aussi dans le maintien du lycée de Givet. Franchement, on n'a vraiment pas à se plaindre d'être dans la région Grand Est aujourd'hui.
Tout à fait. De toute façon, c'est des choses qui avaient été montrées à l'ancien président Philippe Richard, et qui a tout de suite compris l'intérêt et l'enjeu qu'il y avait. On lui a fait prendre le train, il a tout de suite compris qu'il fallait faire quelque chose, puisque justement, on n'avait fait aucun montage. Je me souviens qu'entre Viremolin et Montigny, il y a un vélo qui roulait aussi vite que le train, quoi. Donc il s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, et ce qui est formidable, c'est que ce qui a été dit a été tenu. Ça, c'est important.
Merci en tout cas pour ces actions réalisées. On va marquer une pause et on revient juste après pour la suite des années communautaires. Nous sommes de retour dans l'émission des années communautaires, bilan de l'année 2019 dans plusieurs domaines. On vient de parler effectivement de la fibre optique qui s'installe petit à petit sur notre territoire et qui devrait justement être opérationnelle d'ici la fin de l'année 2020. On va cette fois aborder la partie tourisme avec, j'ai envie de dire, que des travaux qui sont réalisés depuis l'année 2019 et même avant, mais pour quelques années également, on parle de la pointe est. Oui, donc de la muraille sud du fort.
Avant de rentrer dans le détail, je dirais, de tout ce qui va être réalisé à la fois sur Charlemont, on parlait du Charlemagne, je crois que ce qu'il faut affirmer, c'est qu'en fait, nous, le tourisme est une chose extrêmement importante pour la communauté. Bon, on a bien évidemment le développement économique classique, exogène, endogène, mais le développement touristique, ça fait partie, c'est très clairement la deuxième voie de développement de la communauté, axée autour de la Meuse, et autour d'éléments forts comme Charlemont, etc. Donc, en fait, pour nous, c'est essentiel de le faire. On avait encore une conversation hier avec Jean Rotner, qui était venu inaugurer le parc naturel régional de Renvey, nous affirmant qu'effectivement, pour lui, il considérait que Charlemont, c'est un point d'accroche au niveau touristique qui dépassait, je dirais, largement le cadre de notre communauté, même des Ardennes, et que c'était véritablement quelque chose qui était central sur lequel il fallait travailler. Et donc, il a même réaffirmé, c'est une transition, que la région Grand Est serait totalement derrière nous pour tout ce qui serait fait sur le site de Charlemont. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont importantes.
Donc, oui. Le site, donc, est...
Mais il n'y a pas que la pointe est, Eric, hein, c'est la globalité de Charlemont. Hein,
oui, c'est parce que je voulais juste parler de la pointe est.
Bah oui, mais nous, on aime bien parler de tout, il n'y a pas que la pointe est. Désolé.
Je ne dis pas qu'on va faire l'émission sur la pointe est.
Non, désolé, Eric, il n'y a pas que la pointe est qui était
en travaux. Non, c'est vrai que du JV, on la pointe est, mais il n'y a pas que ça, finalement.
Il y a tout Charlemont qui est en travaux.
Tout Charlemont, bien sûr, tout à fait.
Et dans le but, effectivement, de proposer aux touristes un lieu exceptionnel, quand même. Et gorgé d'histoire, puisqu'on a commémoré aussi l'appel du 18 juin.
Oui,
donc
on a fait
part d'animation patriotique qui serait éventuellement proposée chaque année.
Mais bon, ça dépendra des voir, communes.
Mais bon, c'est vrai que le 18 juin, là, oui, c'était quelque chose.
C'était pas mal de le faire là, oui.
C'était vraiment très.
Le mutualiser.
Mutualiser. En fait, ça permet de rassembler toutes les harmonies, tous les anciens combattants, tous les corps constitués. C'était vraiment une belle cérémonie. Mais je dirais au-delà de ça, bon, cette année, on a quasiment doublé les entrées sur Charlemont, on a approché des 10 000 visiteurs, donc faut pas se contenter de ça, donc faut aller plus loin. Et donc il y a des dispositifs particulièrement réinventer le patrimoine, donc c'est un dispositif national dans lequel on a candidaté, on a été retenu, et donc il va falloir qu'on tire le maximum, je dirais, de cette chose-là, donc ça va nous permettre d'avoir de l'ingénierie à notre disposition, et puis surtout de nous mettre en contact avec des investisseurs privés qui ont l'habitude d'investir sur des sites comme Charlemont. Donc ça, c'est extrêmement important qu'on ait pu je dirais, être élu à ce dispositif, d'ailleurs, qui était soutenu par l'ensemble du département de manière très, très solidaire. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on rencontre toutes ces personnes-là, tout France, enfin, Inventer le patrimoine, demain. Ils font une visite demain matin de tout le site, et dans l'après-midi, on les reçoit pour commencer à travailler sur les perspectives de développement, qui vont même au-delà de réinventer le patrimoine, puisqu'on a une des problématiques de Charlemont, avant de parler de l'intérieur, c'est les accès à Charlemont. Mm-hmm. Donc on a travaillé avec, on a reçu la société Poma, qui fait du transport par câble, et qui va nous remettre une pré-analyse.
Poma Galski, en fait, qui fait énormément de remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver, et qui a été sélectionné récemment par la commune de Namur, en lien avec une société vosgienne dont j'ai oublié le nom, pour faire le nouveau moyen d'accès aérien à la citadelle de Namur. Donc ce sont vraiment des spécialistes.
Donc on les a reçus, donc ils ont été surpris aussi de ce site, et ils ont bien compris qu'une des clés du succès, c'était son accès. Donc là, on va avoir une première analyse de ce qui est possible de faire. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, était une grande habituée de ce genre de choses, puisque c'est quasiment elle qui gère l'ensemble des remontées mécaniques dans les Alpes, hein. Donc qui est derrière nous depuis le départ, la Caisse des dépôts. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses très importantes. Donc on a besoin actuellement de mettre un petit peu de s'ordonner, je dirais, dans tout le projet Charlemont de manière générale, et puis surtout de rassembler tous les partenaires, le plus de partenaires possible. Et donc Poma, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc les études vont être menées, de savoir d'où on part, où on arrive. Ils nous ont même proposé un truc style visite par câble du site. Donc là, voilà, il faut qu'on réfléchisse avec la ville sur le point de départ. Enfin, on va voir dans quelques semaines, à mon avis, la pré-étude qui sera vraiment intéressante. Donc ça, c'était, je dirais, avant de parler de l'intérieur du site, où il y aura pas mal d'investissements, comme la Cropière avec notre SPL, etc. Donc que Pascal pourra expliquer. Mais je pense qu'avant de parler du développement, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les accès soient le plus facile possible, quoi. Et ça, c'est vraiment très important. Et sans oublier le petit train touristique aussi, qui a été financé, acheté par la communauté de communes. Donc il va reprendre un peu ce que faisait Monsieur Delay, et qui va pouvoir aussi lui amener des touristes sur le site. Donc, mais une fois que les touristes sont sur le site, il faut qu'on ait les animations nécessaires et qu'on ait tout pour les faire rester, consommer. C'est ça qui est important. Hein. Voilà.
Alors effectivement, il y aura cette année encore d'importants travaux dans la pointe est, hein, notamment l'aménagement d'une allée plus facilement utilisable par les piétons dans la rampe à canon de la partie supérieure. La réalisation d'un accès piéton qui permettra au groupe de touristes de descendre jusqu'à l'extrémité basse de la pointe est et de remonter par un autre chemin pour entrer dans un autre bastion, de manière à ne pas refaire le même chemin en sens inverse, ce qui n'est pas forcément toujours intéressant. Des aménagements dans les passages Serril-Rivière pour faire en sorte que ça soit plus confortable pour les personnes dont la mobilité n'est pas nécessairement la meilleure. Il y aura aussi des aménagements prévus sur le bas. Bref, progressivement, la communauté de communes fait le nécessaire pour rendre beaucoup plus confortable la pointe est, mais aussi le reste du site, comme par exemple avec la Cropière, dont Pascal Gillot peut-être nous dire quelques mots.
Avant que Pascal, pour compléter le propos de Claude, je voulais dire simplement qu'on allait aussi faire la jonction avec Condé, à partir de Charlemont par la Caponnière, donc il reste...
Caponnière, passage couvert.
Qui reste une centaine de mètres à aménager. Et donc on va les aménager, puis après il y a un passage un petit peu souterrain pendant une vingtaine de mètres, et on pourra accéder donc aussi au Fort Condé. Donc mettant en réseau les deux équipements, ça paraissait essentiel. Pascal, je te passe volontiers pour que tu nous expliques la Cropière, qui est un équipement aussi qui est porteur de beaucoup d'espoir également.
Donc on entend beaucoup, effectivement. Donc Charlemont, c'est quand même 80 hectares dont beaucoup ne sont pas accessibles aujourd'hui au public. En dehors de la partie historique, je vais dire, et touristique, il y a aussi toute une autre partie qu'on peut exploiter. Et la commande de Bernard, du président, c'était d'essayer de trouver quelque chose à faire pour utiliser tous ces hectares. Pardon. Essayer de s'en servir pour créer des activités. Donc l'idée, c'était de demander à la SPL Rive de Meuse, qui gère aujourd'hui Terre Altitude et Rivea, forte de son expérience, de faire des propositions. Et il en est ressorti que dans les fossés, qui sont murés, comme chacun le sait, il était intéressant d'essayer d'y faire quelque chose et d'y construire ce qu'on appelle un acropierre. Alors tout le monde sait ce que c'est qu'un acrobranche. Et vous savez, c'est tous ces systèmes de câbles qui permettent d'évoluer d'arbre en arbre comme interaltitude. Eh bien, l'acropierre, c'est un peu le même style de circuit, sauf que les câbles ne sont pas fixés aux arbres, mais sont fixés aux pierres, tout simplement. Alors c'est un petit peu complexe, notamment à Charlemont, d'une part parce que les murailles, il faut s'assurer qu'elles soient fiables, qu'elles soient toujours solides, parce qu'il ne faut pas que les câbles se décrochent. Et en plus, comme on est sur un site touristique, évidemment, il y a toute une étude à faire avec les architectes des bâtiments de France pour essayer de conserver un caractère historique quand même à tout ce site. Donc c'est une procédure qui est relativement longue, ne serait-ce que pour obtenir le permis de construire de cette acropierre. On attend l'obtention du permis pas avant début de l'année prochaine. Il y a ensuite 3 ou 4 mois de travaux, d'une part de consolidation de la muraille et puis d'installation du jeu. Et ensuite, l'idée, c'est de démarrer l'exploitation. Alors, ça ne sera pas pour 2020, ça sera plutôt pour 2021, en fait.
Ce qu'on peut ajouter, c'est que Pascal le soulignait, bon, pour l'obtention du permis, mais faut dire que l'architecte des bâtiments de France, avec lequel on a de bonnes relations, quels que soient d'ailleurs les architectes qui se suivent, hein, on a vraiment un travail de collaboration qui est vraiment efficace. Et je pense que l'État, par l'intermédiaire de l'ABF, a bien compris qu'effectivement, nous, on avait envie d'investir. Et je crois qu'on est suivi, écouté, et ça se passe vraiment très, très bien.
Tu parlais tout à l'heure de l'inauguration de la maison du PNR qui s'est faite hier à Renvey. On aurait évidemment tous préféré que ce fût à Arny, mais enfin c'est comme ça, c'est à Renvey. Et on a eu l'occasion de parler de Charlemont avec le nouveau préfet des Ardennes, Monsieur la Montagne. Et lui-même nous a dit qu'il avait été séduit par le site. Donc on pourrait également compter non seulement sur l'appui de la région, Jean Rottner, mais aussi sur l'appui de l'État dans le cadre du pacte Ardennes qui est en cours de discussion du CPER et des futurs programmes européens. Charlemont, c'est vraiment un joyau du développement touristique de JV, évidemment, mais aussi de la communauté de communes dans son ensemble.
Il y a un alignement des planètes actuellement sur Charlemont. Non, mais c'est important.
Oui,
et ça, cet alignement-là, ça peut ne pas durer. Donc, il faut qu'on profite de ce qui est en train de se construire, parce que finalement, cet alignement de planètes, on l'a construit patiemment. Et donc là, il existe. Et aujourd'hui, il faut mettre autour de la table tous ceux qui ont envie d'investir sur le site. Et ils sont nombreux. Et il y a de la puissance financière derrière. Donc, je veux dire, quelque part, pour la communauté, c'est extrêmement important. Parce que si on n'investit pas fortement, excuse-moi Claude, il faudra investir fortement sur Charlemont pour que Charlemont devienne fort en termes de fréquentation touristique. S'il n'y a pas un investissement fort, il n'y aura pas une fréquentation forte. Il ne faut pas se leurrer. Hein.
Et en plus, il faut effectivement qu'il y ait une fréquentation forte avec des sources de revenus pour la communauté de communes, parce qu'elle fait de gros investissements. Pour l'instant, elle fait ses investissements grâce aux 4,2 millions d'euros qui ont été récupérés dans le cadre de la procédure engagée contre l'État au titre du prélèvement à la valeur ajoutée. Et par exemple, la croupière, c'est un billet de 1 million d'euros.
Après, c'est 600 000 euros pour l'installation du jeu, plus 600 000 euros pour la réfection de la muraille. Donc, 1 million d'euros.
Voilà.
Donc, il faut des recettes, effectivement, à un moment donné.
Là-dessus, moi, je pense, pour donner suite à la conversation qu'on a eue hier avec le préfet et le président Rottner, il faudrait qu'on sollicite la région pour leur demander s'il ne reste pas un petit peu de sous sur l'enveloppe du FEDER pour nous aider à financer ça.
Ça me paraît
important.
On revient pour la suite de cette émission Les Années Communautaires avec le bilan de l'année 2019 et puis on parle, vous l'avez entendu, de différents projets. Ce sera dans quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre. Bilan de l'année 2019 avec nos trois invités dans cette émission Les Années Communautaires. Bernard Dekens, Claude Wallendorf et Pascal Gillot. Nous étions dans le tourisme et nous avons abordé le fort de Charlemont qui sera aussi raccordé avec le fort Condé pour un site touristique exceptionnel. On peut dire qu'il est voué à être le lieu touristique de la pointe des Ardennes, le fort de Charlemont, avec aussi, vous l'avez dit, en projet prochainement, le parcours Acropierre. D'autres projets comme ça pour le fort de Charlemont, la citadelle.
Oui. Alors, bon, on a été un petit peu long, sans doute, juste avant la coupure. Mais Charlemont, on pourra en parler pendant des heures. Et comme vous le voyez, on s'en passionne très très rapidement. Donc, ce qu'il est envisagé pour l'instant, c'est un découpage de Charlemont plus ou moins en trois zones. Une zone qui serait la zone d'accueil, qui serait assez gratuit, ce qui permettrait à tout un chacun de venir jusque Charlemont, se balader un petit peu, se restaurer, profiter du point de vue de façon tout à fait gratuite. Il y aurait ensuite une partie culturelle, historique, qui elle resterait payante, donc c'est toute la pointe est. Mmh. Et puis une troisième partie qui serait donc la partie ludique, sportive, loisir, je veux dire, qui elle aussi serait payante, ce serait la partie avec la croupière, avec les trottinettes qui ont été mises en place en 2019, qui vont perdurer. Alors dans un système de tarification un petit peu différent de ce qui se faisait, parce qu'on a compris qu'effectivement on avait un positionnement prix qui n'était pas très, très cohérent, parce que les gens qui voulaient venir faire de la trottinette devaient repayer un droit d'entrée à Charlemont. Donc celui qui était venu une première fois pour visiter, il n'avait pas forcément envie de repayer le droit d'entrée de Charlemont venir faire de la trottinette après. Donc c'est ça aussi le projet de Charlemont, c'est que on apprend un petit peu au fur et à mesure, on tire des leçons de nos faiblesses et de nos points forts, et on essaye d'aller toujours en s'améliorant. Au-delà de toutes ces attractions qui seront permanentes pendant la saison, donc à partir du 1er mai jusqu'au 30 septembre, il y a aussi ensuite toutes les activités qui vont être développées, qui seront plus ponctuelles dans le courant de l'année. On aura évidemment le retour de la 14-18, hein, cette fameuse course qui avait rencontré un franc succès en 2019, mais pas encore tout à fait le succès espéré, parce qu'on attendait beaucoup plus de monde. Mais vu l'excellente publicité qui en a été faite par tous ceux qui sont venus courir en 2019, on a bon espoir d'avoir une très jolie édition en 2020. On aura également de nouveau un spectacle, très certainement comme celui que nous avons fait l'année dernière ou l'année présente. L'année dernière, c'était Marie Tudor, et l'année 2018, c'était Les Misérables. Donc on ne connaît pas encore ce qu'il sera en 2020, mais on y travaille en tout état de cause.
On le sait, mais on n'a pas le droit de le dire.
D'accord. Il y a un appel à projet qui est lancé d'ailleurs par presse interposée pour recueillir tous les projets qui seraient susceptibles d'intégrer l'animation.
Pas pour le spectacle avec Namur.
Mais il y a un appel à projet général. Oui, tout à fait.
Général, comme par exemple les projets de M. Van der Stappen qui consistent à animer les locaux. Les projections télévisuelles.
Mais ce qui est important, je reviens là-dessus, c'est l'expertise qu'on va avoir à travers la candidature et l'éligibilité à réinventer le patrimoine. On va avoir en contact des gens qui ont l'habitude, je dirais, d'animer et de faire de l'animation et d'utiliser des sites comme Charlemont. On va avoir besoin de leur expertise qui est faite de leur expérience, si vous voulez, de gérer des sites comme ça. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important qu'on puisse coller à ce truc-là avec eux. Ça, c'est primordial.
Ça veut dire que la culture va s'inviter beaucoup plus qu'auparavant, donc sur la citadelle.
Tout à fait.
D'accord. Alors, peut-être, pourquoi ne pas essayer d'inscrire Charlemont au Pass Culture? C'est une idée qui me vient comme ça. Mm-hmm. On est en train de travailler à JV au manège pour le Pass Culture.
Ouais, faut regarder.
Ben, Charlemont, ça doit être possible de s'inscrire au Pass Culture.
Il y a déjà des choses qui sont engagées. Alors, je ne sais pas si c'est engagé pour le Pass Culture, mais il y a déjà un certain nombre d'opérations comme ça dans lesquelles Charlemont est inscrit.
Oui, bien sûr, oui.
Et donc, vous le disiez, Monsieur Gillot, un accès libre serait proposé, donc, effectivement, à la population et aux touristes qui viendraient.
La partie animation, partie centrale de l'animation,
Bien sûr. Toute la partie place d'armes, accueil avec la petite restauration et les parkings, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous arrivez sous le porche de Charlemont, vous payez. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas payé aujourd'hui, le but, c'est d'acquérir un petit peu, d'accueillir toutes les personnes qui veulent venir, qui n'ont pas forcément envie d'aller visiter à chaque fois la pointe est, tout simplement, mais qui veulent venir là pour se promener. Voilà, donc il y aura toute une partie qui sera évolutive, mais qui sera complètement gratuite pour passer quelques heures, venir boire un coup, manger une crêpe, manger une gaufre, peu importe, mais pour aussi ramener, je vais dire, certaines parties de la population locale venir plus régulièrement sur Charlemont.
C'est clair, c'est vrai qu'il faut essayer de faire venir des gens de l'extérieur, mais il faut aussi intéresser nos habitants, je dirais, et leur faire prendre l'habitude de considérer Charlemont comme un lieu de détente, un lieu où on peut aller effectivement boire une bière en famille, etc. etc. quoi. Donc ça, c'est important aussi de ne pas négliger cet aspect local de l'animation.
Alors, est-ce que justement le site serait accessible tout au long de l'année?
Pas pour l'instant.
Avec différentes... non.
Pas pour l'instant. Donc la période d'ouverture est fixée pour l'instant du 1er mai au 30 septembre. C'est difficile de l'envisager toute l'année parce que au-delà du 30 septembre, on sait que les touristes sont partis pour la plupart, même s'il en reste encore beaucoup. Preuve en est d'ailleurs le nombre de camping-cars actuellement sur l'aire de camping-cars en bord de Meuse, près de l'ancien Moulin des Morts. Mais ce n'est pas suffisant que pour faire vivre le site. Et puis le faire vivre, ça veut dire mettre aussi du personnel à disposition. Et donc, il y a un moment donné où on doit quand même maîtriser un petit peu nos charges d'exploitation. Donc, ce n'est pas réalisable aujourd'hui en hors saison touristique, on va dire.
Si on a un exploitant privé, ou des exploitants privés sur le site, après, ce sera eux de développer peut-être des choses pour faire vivre le site toute l'année. Mais rien n'est exclu et on ne s'exclut rien sur Charlemont. Mais effectivement, notre limite, c'est la limite financière. Effectivement, c'est clair.
Ça pourrait venir si, par exemple, on avait une activité hôtelière qui venait à se créer à Charlemont, où là, effectivement, cette activité, elle serait permanente. Donc là, on pourrait peut-être envisager quelque chose.
Mais aujourd'hui, c'est votre souhait, justement, de faire dormir le touriste sur le site?
Alors, ce n'est pas, il faut quand même être prudent. Hein. Tout ça doit être fait avec précaution, dans la mesure où il y a déjà une offre hôtelière à Givet, dans la communauté de communes. On aura bientôt une offre hôtelière de qualité supérieure à Vireux-Valran, avec un hôtel de grande qualité. Tout ça doit être fait en harmonie, parce qu'il ne s'agirait pas qu'un nouvel hôtel installé dans Charlemont pompe la clientèle des hôtels de charme de Givet, ni de l'hôtel de la Ibis de la route de Morin. Donc tout ça doit être étudié. Il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Voilà, ça forme un tout. L'offre touristique de la communauté de communes doit être un tout, doit être adaptée à toutes les catégories de touristes, et il ne faut pas privilégier une catégorie ni un exploitant par rapport aux autres exploitants.
Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on souhaite, effectivement, tout ça se fait à travers des équilibres qui sont importants, c'est que les visiteurs, ceux qui viennent visiter notre territoire ou Charlemont pendant quelques heures, ils se transforment en touristes et qu'ils puissent avoir des séjours, qu'on puisse proposer des séjours qui puissent être de qualité différente, mais qu'on puisse conserver des gens un petit peu plus longtemps sur le territoire. Les gens qui restent plus longtemps, c'est des gens qui consomment. Donc, mais tout ça doit se faire à travers le maintien de certains équilibres, effectivement. Ça, c'est clair.
En fait, Charlemont va devenir le phare, tel le phare d'Alexandrie. On va attirer les touristes.
Façon, lui,
et puis, ensuite... je vois Claude qui me fait des gros yeux.
J'espère que Charlemont ne finira pas comme le phare d'Alexandrie.
Il est au fond de la mer. Lui,
il tient bien depuis quelques siècles, donc il n'y a pas de raison qu'il tombe. Et qu'ensuite, ces touristes, effectivement, sortent de Charlemont pour aller, d'une part, se balader dans le centre-ville de Givet, aller s'y restaurer également, aller visiter les autres points touristiques qu'il y a tout autour. Il y en a plein. Il y a Château d'Hierges, il y a la grotte de Nichet. Voilà. Et puis, on a le Charlemagne.
Le Charlemagne.
Naviguer, effectivement, sur le
Charlemagne.
En ayant une vue incontournable sur la citadelle Charlemont.
Et même sur la vallée, parce qu'effectivement, quand on voit la vallée de la Meuse, ça n'a pas du tout la même approche que quand on la voit de la route. C'est complètement
différent. Le bilan 2019 pour le Charlemagne
Le bilan 2019, effectivement, l'office de tourisme qui le gère pour 3 ans a commencé cette première année très en retard, compte tenu de toutes les problématiques et les vicissitudes qu'on a eues avec le dernier exploitant. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire la communication nécessaire, mais ils se sont quand même pas si mal tirés que ça. Charlemagne a navigué et c'était notre souhait le plus important. Donc là, aujourd'hui, on entend ici et là, on voit ici et là tout un tas de trucs qui sont dits sur le Charlemagne, mais un bateau, il faut bien qu'on l'entretienne, ce bateau, donc c'est tout à fait nécessaire de le mettre aujourd'hui en cale sèche pour le repeindre, pour faire un certain nombre de réparations. C'est classique, c'est comme une voiture. Et on se posait, on peut annoncer aussi que l'Office du Tourisme a pris les choses en main, et on peut penser que l'année 2020 sera bien meilleure que celle de 2019. On avait des doutes sur la problématique pilote, donc je pense qu'un pilote est en train d'être recruté, donc les choses sont en train de se mettre en place, et je pense que l'Office du Tourisme avec le Charlemagne sera au rendez-vous à l'heure fixée. Il n'y a pas de problème à mon avis là-dessus.
En fait, une saison touristique, quel que soit le point d'intérêt touristique, ça se prépare un an à l'avance. Très clairement, l'année 2020, elle s'est préparée en 2019. Dans le cas particulier du Charlemagne, c'est M. Delay, donc il exploitait en 2018. Il a jeté l'éponge, alors non pas parce que l'exploitation du Charlemagne n'était pas rentable, parce qu'en fait elle s'équilibrait tout à fait. Malheureusement, M. Delay a souhaité s'investir dans l'exploitation d'un petit train touristique qui reliait notamment donc le quai de Meuse à Charlemont, ce qui était une excellente idée, ce qui se pratique d'ailleurs ailleurs. Le problème, c'est que bon, il s'est trompé, je vais dire, sur le plan de financement de ce petit train touristique, et c'est ça qui a plombé son activité financièrement et qui l'a contraint malheureusement à jeter l'éponge. Mmh. Et donc, ce qui veut dire qu'il a jeté l'éponge en fin 2018, le temps que nous nous retournions et que la communauté prenne la décision de confier à l'Office de tourisme communautaire l'exploitation de Charlemagne, il était trop tard pour préparer la saison 2019. Mmh. Donc, l'Office de tourisme a fait ce qu'elle a pu. Avec ce qu'elle avait, et bon, ma foi, ça a fonctionné, mais ça a eu au moins le mérite de fonctionner quand même un petit peu. Mais là, pour 2020, on a quand même meilleurs espoirs, parce que l'Office de tourisme communautaire s'était déjà engagé dès 2019 dans les orientations d'exploitation de 2020, préparer la prospection, la promotion, il faut les démarcher, les tours opérateurs, les autocaristes, etc., ce qui a été fait, et donc ça devrait quand même aller
beaucoup mieux. Les fichiers des exploitants précédents, l'Office de tourisme n'y a pas eu accès, enfin il y a une petite guéguerre qui s'est installée, bon, mais enfin tout ça c'est rentré dans l'ordre, et le Charlemagne va continuer à vivre, va continuer à développer, je dirais, le tourisme sur l'axe Meuse. C'est extrêmement important qu'on puisse le faire.
Alors, ça, pour revenir sur le petit train touristique, donc comme je le disais, M. Delay avait eu cette idée qui était une excellente idée. Le problème, c'est qu'il avait loué son petit train à un prix qui était complètement dispendieux, et donc la communauté a souhaité reprendre cette idée-là à son compte, et c'est la raison pour laquelle, en fait, la communauté vient d'acheter un petit train.
Bien sûr. Et si, je pense que si M. Delay nous en avait parlé, avait communiqué un peu plus sur son problème de train, parce que finalement, il n'a pas suffisamment parlé avec nous.
Il a fait des tas de choses tout seul.
Il a fait un truc tout seul, et nous aurions anticipé.
Prendre un bureau,
bien sûr,
dans la rue du Cygne à Givet, tout ça, c'était des frais supplémentaires. Mmh. Il a été beaucoup trop optimiste et beaucoup trop ambitieux.
Si nous avait parlé de son problème, si nous avait parlé de son projet de train, on aurait certainement pu avoir l'analyse qu'on a peut-être eue maintenant, et peut-être nous financer un train et puis le mettre à disposition sous convention, etc. Donc voilà, c'est très dommage. Il avait de bonnes idées, mais il a foncé un peu trop, et il aurait dû nous en parler et partager avec nous, quoi. Donc là, effectivement, c'est clair.
Alors, un petit mot supplémentaire, puisqu'on est dans le domaine du tourisme, on a évoqué le Charlemagne, on a évoqué le Charlemont, on n'a pas parlé de la boucle de Chaux.
Oui.
La boucle de Chaux est un élément particulièrement important pour le développement touristique de la communauté, puisque aussi bien c'est un dossier qui a été très difficile à faire aboutir, hein, de manière à obtenir que les cyclistes ne soient plus obligés, lorsqu'ils viennent de Charleville, de quitter la Meuse à Ans-sur-Meuse pour aller prendre une route départementale pentue, fréquentée, où il y a déjà eu deux décès, avant de revenir au petit Chaux. Les travaux ont commencé en 2019, ils seront terminés en 2020. Logiquement, l'entreprise Urano aurait dû commencer l'enrober à partir d'aujourd'hui. Malheureusement, je ne sais pas si avec les conditions météorologiques et la crue de la Meuse, cela pourra être fait. En tout état de cause, nous sommes assurés d'une chose, au printemps 2020, les cyclistes pourront prendre Ans-sur-Meuse Petit Chaux sans quitter la Meuse et profiter de la vue magnifique, d'une part sur les belles collines ardennaises, et puis aussi, pour ceux qui aiment bien ça, parce que c'est un intérêt technologique évident, sur la centrale de Chaux.
Faut pas croire, on entend parfois des commentaires là-dessus, que c'est long, etc. Mais avant de commencer à faire le contournement, il a fallu faire les acquisitions foncières. Je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire.
Mais c'est pas fini. Parce
c'est pas complètement encore, terminé. On a encore des choses qui ne sont pas totalement réglées avec certains propriétaires, alors qu'on a fait passer la voie verte chez eux.
Hein. Justement, il y a une note à ce sujet-là. Ça devrait être vite réalisé avec les Vinantes.
Ça va.
Très bien. On marque une pause et on revient pour la fin de cette émission Les Années Communautaires dans quelques instants. Excellente journée à toutes et à tous. C'est la dernière partie pour cette émission Les Années Communautaires consacrée au bilan de l'année 2019. On a abordé en deux émissions effectivement différents domaines, et on va conclure avec, dans le domaine touristique, le parc Terre Altitude à Fumet, effectivement l'animation phare de la cité ardoisière. Comment s'est passée l'année 2019 pour le parc Terre Altitude? mètres altitude à fumer.
On va demander ça au président de la SPL qui le gère.
Alors, elle ne s'est pas mal passée. Elle était un petit peu en dessous de nos attentes pour une raison évidente, c'est que le parterre altitude, c'était une activité qui se fait en extérieur. Donc quand il pleut, on n'a pas forcément beaucoup de monde. Quand il fait trop chaud, on n'a pas forcément beaucoup de monde non plus. Donc c'était pas déjà très bien parti, je vais dire, sur le début de la saison, donc sur le mois d'avril et mai, puisque malheureusement, on a eu toute une succession de week-ends pluvieux. Donc la fréquentation n'a pas très très bien démarré. Elle a beaucoup mieux progressé par la suite sur juin-juillet, avant de s'effondrer de nouveau au mois d'août, qui était particulièrement chaud. Mais bon, ceci dit, on était un petit peu en deçà de 15 000 visiteurs, ce qui est quand même tout à fait respectable, mais on s'attendait un petit peu à mieux, fort, je veux dire, de la saison 2018, qui avait été excellente, qui avait été une saison record, et on aurait bien aimé commencer, enfin du moins renouveler cet exploit-là en 2019. Mais bon, voilà, ce n'est que partie remise, et 2020, je suis sûr qu'on va y arriver.
Je pense que si on intègre dans le bilan de Terre Altitude, le projet de chalet sur Fumet, on aura déjà aussi, à mon avis, le complément d'action et de personnel en plus. Donc effectivement, ça devrait, à mon avis, arriver aux 20 000, qui est le point qui est vraiment excellent en termes de fréquentation pour Terre Altitude.
Quand vous parlez de chalet,
les chalets, donc c'est le projet donc de chalet sur Fumet, donc à proximité de Terre Altitude, qui est toujours en cours, puisque effectivement il y a un investisseur qui a souhaité mettre un peu d'argent là-bas en construisant des chalets. Donc on a eu beaucoup de problèmes là-bas, donc des problèmes d'accès par la forêt, des problèmes également d'urbanisme, puisque la commune de Fumet n'avait pas encore complètement, était toujours en règlement national, donc
c'était pas ça, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient un plus malheureusement du temps de la municipalité précédente, ils n'ont pas fait le nécessaire pour transformer leur tenue à temps, du coup ils sont retombés à ce qu'on appelle règlement national d'urbanisme, et tout ça maintenant dépend du préfet, non plus du maire.
Et donc là, ils sont en train de refaire leur PLU. Donc on a eu pas mal de choses. On a eu une étude environnementale qu'on a financée au niveau de la communauté. Et là aujourd'hui, bon, je dirais que l'investisseur devrait déposer un premier permis d'aménager dans les mois qui viennent pour la première phase, je dirais, de construction des chalets. Donc en fait, pour Terre Altitude, c'est très complémentaire, puisqu'on aura des gens qui viendront passer des week-ends, passer des semaines là-bas, et qui seront des gens qui vont fréquenter nécessairement le parc. Donc on devrait avoir une fréquentation un petit peu plus accrue sur Terre Altitude avec ça. C'est un bon complément.
On parle d'environ un chiffre entre 50 et 80 chalets, donc c'est quand même
plutôt 50 à l'heure actuelle.
Oui, ce serait plutôt 50 à l'heure actuelle. Alors, les Givetois connaissent bien, chez nos voisins belges d'Assières, les domaines du Bonsoir ou le camping des Étoiles, et voilà, c'est un petit peu sur ce modèle-là que ça va être construit.
D'accord.
Sauf que ça va pouvoir vivre effectivement en voisinage direct de Terre Altitude, donc ce sont des gens qui vont pouvoir sortir de leur chalet, venir directement profiter des activités du parc, donc c'est quelque chose qui va vraiment amener, je vais dire, une clientèle en complément, et qui va créer des synergies relativement importantes, entre autres avec tous les autres sites touristiques.
Et là encore, la communauté de communes a déployé, fait tout ce qu'elle pouvait pour encourager ce projet qui va finalement aboutir. Rien que les accès, les négociations avec l'Office national des forêts et l'arbitrage à la limite par le ministère de l'Agriculture pour pouvoir avoir les accès. Bon, tout ça est fait. Bon, il y a quand même de l'argent à mettre derrière pour l'aménagement de la voirie. Mais bon, voilà, il fallait qu'on en sorte, et je crois que maintenant les feux sont relativement ouverts pour ce projet, qui est un projet structurant très important pour la communauté.
Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on reçoit énormément de projets, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses intéressantes, mais ça prend un temps fou pour arriver à instruire tous les dossiers avec tous les services de l'État, etc. Alors on comprend bien qu'il y a un minimum de règlements qui soit nécessaire pour ne pas laisser faire tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, l'instruction des dossiers, il y a des enquêtes environnementales qui doivent être faites, en plus des dossiers urbanistiques, comme le rappelait à l'instant Bernard. Et ça, ça prend des mois, voire parfois des années d'ailleurs, pour qu'on arrive à boucler tout ça. Mais parfois, pas toujours avec 100% de succès d'ailleurs. Il faut quand même le savoir.
Ce qui est difficile chez nous en France, quand on veut comparer par exemple à la Belgique, c'est qu'en France, quand on a des projets comme ça, qui sont un peu des projets sensibles, on est plutôt dans une approche de l'État ou des structures de l'État un peu négatives. Donc il faut démontrer toute la positivité du sujet, alors que du côté belge, on a toujours tendance à dire que c'est possible et on va rendre les choses possibles. Donc c'est une approche qui est un peu différente, mais qui est parfois, c'est parfois usant pour nous de toujours être obligé de convaincre et de se réunir pour tout un tas de choses et de lever tout un tas de problèmes qui peuvent être liés à la présence d'un papillon sur place qui vous met tout le projet par terre. Mais un papillon sur place, on est en capacité de régler aussi les problèmes. Donc pas en tuant le papillon, hein, mais en modifiant la manière dont on fait l'habitat, etc. Enfin, il y a des solutions à tout, quoi, mais parfois c'est difficile.
Bien, c'est la fin de cette émission.
Ça passe vite,
on se retrouvera le mercredi 4 mars prochain.
Oui, pour parler de ce qu'on n'a pas pu encore évoquer depuis le début, puisqu'on a tellement de choses à dire que deux émissions ne suffisent pas, notamment les dossiers économiques. Ce sera le premier mercredi du mois de mars à 7h15. Voilà, et on aura le plaisir, comme à chaque émission de Radio Fuji, de remercier. Alors, je vais laisser Rachid le faire.
Oui, c'est vrai, on a zappé notre partenaire, donc on le salue, on lui dit merci, c'est la boulangerie-pâtisserie chez Porcelli, donc au Petit Givet, merci. Donc à JF pour ce petit-déj, comme c'est le cas à chaque émission consacrée aux années communautaires.
Merci Rachid pour cette réalisation et cette précision. Merci messieurs, et rendez-vous donc le mercredi 4 mars prochain pour la suite des années communautaires.
Merci Eric. Merci Eric.
Merci.
Merci Rachid et bonne journée.
Merci Eric, merci aussi à Rachid qui était à la technique et à Odile qui est venu nous faire un petit coucou tout à l'heure en passant. Et puis une excellente journée à tous les auditeurs.
Passez toutes et tous une belle journée.